Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce samedi 6 novembre 2021. Je vous propose tout de suite le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que les réserves iraniennes d'uranium enrichi à 60% avaient atteint 25 kg. En Cisjordanie, un adolescent palestinien a été tué par l'armée israélienne et le Niger décrète 2 jours de deuil national à partir de vendredi, après qu'au moins 69 personnes ont été tuées dans une attaque menée par des extrémistes. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que les réserves iraniennes d'uranium enrichi à 60% avaient atteint 25 kg. L'Iran fait partie des rares pays capables de produire de l'uranium enrichi à 60%, a déclaré le porte-parole de l'OIEA, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi. Le stock d'uranium enrichi à 20% de l'Iran a dépassé les 210 kg, a-t-il ajouté. Selon une loi adoptée par le Parlement iranien en décembre 2020, le IOA devait produire au moins 120 kg d'uranium enrichi à 20% d'ici la fin de l'année 2021. En vertu de l'accord nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun, l'Iran était obligé de limiter son enrichissement d'uranium à une pureté de 3,67% et de ne pas stocker plus de 300 kg de matière. Les responsables iraniens ont affirmé que l'augmentation de l'enrichissement d'uranium ainsi que d'autres mesures visant à réduire certains engagements dans le cadre du plan d'action global commun étaient une réaction au retrait unilatéral des États-Unis de cet accord et à l'échec des signataires européens à protéger les intérêts de l'Iran alors que subsistent des sanctions énergétiques et bancaires de la part des États-Unis. Après 6 cycles de négociations visant à relancer le plan d'action global commun dans la capitale de l'Autriche, Vienne, entre avril et juin, l'Iran et l'Union européenne ont convenu mercredi de poursuivre les pourparlers à partir du 29 novembre. Les manifestations en Irak contre les résultats des élections ont tourné à la violence. Contestant les résultats des élections législatives, un grand nombre de manifestants irakiens sont descendus le vendredi 5 novembre dans les rues de Bagdad, la capitale, et se sont confrontés aux forces de sécurité irakiennes près de la zone verte. On rapportait les médias irakiens faisant état d'au moins 1 mort, 2 selon d'autres sources. Brandissant des pancartes avec le slogan que leur vote était volé, les manifestants se sont rassemblés en masse devant le bâtiment du ministère du Plan à Bagdad, a rapporté la chaîne de télévision irakienne Al-Ahad News. Les forces de sécurité ont tiré des balles et recouru à l'usage du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants aux alentours de la zone verte. Un certain nombre de partis politiques, de coalitions et de factions irakiens jugent que les élections législatives du 10 octobre ont été truquées et en contestent les résultats. De même, un grand nombre de villes à travers l'Irak étaient le théâtre de manifestations contre les résultats préliminaires, les manifestants exigeant la mise en œuvre des méthodes manuelles pour le dépouillement des bulletins de vote. Certains politiciens irakiens suggèrent l'hypothèse de l'ingérence des partis étrangers dans les résultats des récentes élections législatives et confirment l'influence des Émirats arabes unis, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Après le meurtre d'un adolescent palestinien de 13 ans par les militaires israéliens, un poste de contrôle du régime sioniste a été attaqué le samedi 6 novembre à Lop. Des assaillants inconnus ont ouvert le feu en direction d'un poste de contrôle israélien à Ramallah, quelques heures après que les militaires du régime sioniste ont tué un adolescent palestinien âgé de 13 ans. Les assaillants sont arrivés à prendre la fuite. Vendredi soir, le ministère de la Santé de l'autorité autonome palestinienne a annoncé que Mohamed Dadas, 13 ans, avait été blessé par balle au ventre dans le village de Deir al-Hattab, près de Naplouse. Hospitalisé en arrêt cardiaque, il n'a pas pu être sauvé. Mohamed Dadas habitait dans le camp Askar à Naplouse et il a été tué lorsque les militaires du régime sioniste s'en sont pris à une manifestation pacifique organisée en vue de protester contre la construction illégale de colonies à l'est de Naplouse. De nombreux rassemblements ont lieu en Cisjordanie les vendredis pour protester contre l'expansion illégale des colonies israéliennes. Ces manifestations sont parfois émaillées de heurts avec l'armée israélienne qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Vendredi soir, la chaîne de télévision Al Jazeera a révélé que deux Israéliens avaient été kidnappés à l'extérieur de la Palestine. En Syrie, une offensive de l'armée turque a été tuée dans l'œuf. L'armée turque et ses supplétifs terroristes ne sont pas parvenus à avancer vers les positions des forces kurdes et de l'armée syrienne, puisque celle-ci avait miné les alentours. Trois chars de l'armée turque ont été gravement endommagés, deux véhicules ont explosé et au moins six terroristes ont été tués. Les YPG, branche armée du PKK, ont commencé à renforcer leur position dans la province d'Alep. Selon des sources turques, des unités kurdes posent des mines antipersonnelles et antichars dans une région entre Azaz et Rifat afin de rendre quasi impossible les offensives des forces pro-turques. Les occupants turcs peuvent bombarder les territoires du nord de la Syrie, mais ils n'osent pas passer à l'offensive en raison des champs de mines, réaffirment des sources syriennes. À Saka, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires des réseaux terroristes ont renouvelé leurs attaques contre les maisons des civils dans les villages périphériques d'Abu Rasin et Taltamar, dans la banlieue nord-ouest de cette province. Des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que l'occupation turque et ses mercenaires avaient visé à un certain nombre d'obus d'artillerie lourde les villages périphériques d'Abu Rasin de la localité d'Al-Dardara, aux environs de Taltamar, dans la banlieue nord-ouest d'Asaka, ce qui a fait des dégâts matériels dans les maisons et les propriétés. À Al-Tanf, les forces d'occupation américaines ont fait entrer un grand convoi militaire comprenant 26 véhicules et camions chargés d'armes, de munitions et de matériel logistique vers leur base militaire à la frontière syro-irakienne. Des sources ont fait savoir que le convoi, qui est le plus grand du genre qui arrive ces dernières années à Tanf, était entré sur les territoires syriens depuis les territoires jordaniens via des couloirs qui avaient été ouverts il y a quelques années par les forces d'occupation pour soutenir les réseaux terroristes retranchés dans la zone d'Al-Tanf. Le Niger décrète deux jours de deuil national à partir du vendredi 5 novembre, après qu'au moins 69 personnes ont été tuées dans une attaque menée par des extrémistes. L'attaque a eu lieu dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. Des recherches sont en cours pour retrouver des survivants. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'effusion de sang qui a eu lieu mardi. Les assaillants se sont enfuis en traversant la frontière malienne, emportant avec eux leur propre mort. Le ministère de l'Intérieur du Niger rapporte qu'une délégation conduite par le maire de Bani Bangou était tombée dans une embuscade dans un village situé à environ 55 km de là, dans la région occidentale de Tillaberi. Dans une déclaration, il accuse des bandits armés non identifiés. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné vendredi le récent attentat terroriste meurtrier au Niger. M. Mahamat a en outre réaffirmé la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple nigérien en cette période difficile. Le Niger a connu des attaques terroristes meurtrières et la région de Tillaberi a été l'une des principales zones touchées par de tels incidents. Au Mali, 6 personnalités maliennes ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine. L'information a été confirmée vendredi 5 novembre par la justice malienne. Tous sont accusés notamment de tentatives de coup d'État et de complot contre le gouvernement. Parmi eux, un ancien secrétaire général de la présidence et un ancien chef de la sécurité d'État, les services maliens de renseignement maliens qui avaient disparu depuis plusieurs semaines. En décembre dernier, 7 autres personnes, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé et le chroniqueur Raspat, avaient déjà été accusés de complot, avant d'être blanchis par la Cour suprême 4 mois plus tard. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Le PEGAC, c'est mieux que le statu quo. L'ex-chef du renseignement de l'armée israélienne prétend que le nouvel accord nucléaire iranien sera pire que le précédent. Mais il en vaut la peine. Un nouvel accord nucléaire, conclu dans les prochains mois entre l'Iran et les puissances mondiales, sera probablement pire que l'accord de 2015, a prévenu jeudi 4 octobre l'ancien chef du renseignement de l'armée israélienne. Aaron Zivi Farkash au quotidien israélien Jerusalem Post. S'exprimant après l'annonce mercredi soir de la relance du 29 novembre à Vienne des pourparlers nucléaires entre la République islamique d'Iran et le groupe 4+1, Zivi Farkash a dit qu'en dépit de son pessimisme, même un accord aussi inférieur que le plan d'action globale commun vaut mieux que l'absence d'accord. Il a déclaré que même un mauvais accord donnerait à Israël une chance de retarder la menace nucléaire de Téhéran au moins jusqu'en 2031, alors qu'à l'heure actuelle, l'Iran est proche du seuil nucléaire. Il a déclaré qu'il s'attendait à un nouvel accord d'ici quelques mois, mais espérait que l'administration Biden et la Troïka européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni feraient pression pour un ajout plus long et plus solide à l'accord afin de retarder la menace nucléaire même au-delà de 2031. Les pays occidentaux, à leur tête les États-Unis et le régime sioniste, ont toujours prétendu que le programme nucléaire iranien était à caractère militaire. Mais l'Iran a fermement rejeté toutes ces allégations. En tant que signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, et membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'Iran insiste sur son droit d'accéder à la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Les inspecteurs de l'AIEA n'ont jamais trouvé lors de leurs inspections de preuves attestant que le programme nucléaire de l'Iran a des visées militaires. Un an après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, l'Iran a annoncé le 7 mai 2019 la suspension de certains de ses engagements et a donné 60 jours aux autres signataires pour respecter les leurs. Une garantie impossible à donner pour Joe Biden. Les républicains ont prévenu qu'ils torpilleraient l'accord s'ils reviennent au pouvoir. Le leader de la République islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré le mercredi 29 juillet que Téhéran n'accepterait pas les demandes obstinées de Washington lors des pourparlers visant à relancer l'accord nucléaire. Les Américains ont agi de manière totalement lâche et malveillante. Ils ont autrefois abrogé l'accord nucléaire sans frais. Maintenant, ils disent explicitement qu'ils ne peuvent pas garantir que cela ne se reproduirait plus, a-t-il fait remarquer. Washington est têtu et insiste pour l'ajout d'une phrase à l'accord nucléaire existant. Lors des récents pourparlers nucléaires, les Américains ont fermement insisté sur leur position. Lorsqu'ils font des promesses sur papier, ils disent qu'ils supprimeront les sanctions, mais en pratique, ils ne le font pas et ne le feront pas, a-t-il souligné. Et de poursuivre. En ajoutant cette phrase, ils veulent fournir une excuse pour leurs nouvelles interventions sur l'accord nucléaire, les missiles de l'Iran et les questions régionales. Ensuite, si nous refusons de discuter de ces questions, ils nous accuseront de violer l'accord nucléaire et diront que l'accord est terminé. Étant donné que les États-Unis se sont retirés de l'accord, c'est Washington qui doit revenir et lever des sanctions, et il est indispensable que la mise en application des engagements américains soit mise à l'épreuve. Ceci dit, Téhéran n'est pas pressé que les États-Unis reviennent à la table des négociations.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont bloqué la tentative des États-Unis de voler la cargaison d'un navire transportant du pétrole iranien dans la mer d'Oman. Dans son communiqué, le corps des gardiens de la révolution islamique a souligné que même après l'intervention rapide des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique, la marine américaine avait essayé de renforcer sa puissance de feu dans la zone où l'incident a eu lieu en y expédiant plusieurs navires de guerre afin de bloquer la voie aux pétroliers transportant du pétrole iranien. Mais les forces américaines ont vite saisi, précise toujours le corps des gardiens de la révolution islamique dans son communiqué, la fermeté et la détermination des combattants des forces navales pour protéger le pétrolier et de les empêcher le moindre aventurisme contre les intérêts nationaux de la République islamique d'Iran. Par conséquent, les navires américains ont quitté la zone après l'échec de leur tentative. C'est de ce sujet qu'on va en fait parler avec vous dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités, deux juristes et spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un autre juriste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Damas. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Chamy.
Maître Develet, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. En première question, comment expliquez-vous ce qui s'est passé en fait ces derniers jours entre l'Iran et les États-Unis, très particulièrement ce qui s'est passé, si vous voulez, vient de se passer dans la mer d'Oman, s'agissant de pétrolier qui transportait le pétrole iranien?
Oui, alors écoutez, les faits d'abord, vous les avez bien récapitulés, mais pour nos téléspectateurs, donc une cargaison pétrolière était en chemin vers l'Iran, si je ne m'abuse, et à un moment donné, donc un bâtiment maritime américain a fait éruption et s'est identifié comme appartenant à la coalition globale dont on sait qu'elle n'a aucun fondement juridique et qu'elle exerçait, je cite, des patrouilles de routine. Ceci étant, on a eu le précédent d'un pétrolier iranien dont le pétrole a été volé par les Américains pour être ensuite revendu. Et cela a poussé la République islamique d'Iran à prendre les mesures prophylactiques afin d'escorter donc les convois énergétiques et faire en sorte que ces tentatives ne puissent plus aboutir. Et dans ce contexte précis, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que le bâtiment américain est apparu sur les radars du corps des gardiens de la Révolution, les protocoles ont été mis en place, les effectifs ont été déployés. Pour certains d'entre eux, ils ont pris position donc sur le bâtiment lui-même pour le préserver et toute une série de vedettes rapides et mobiles se sont mobilisées autour du pétrolier afin d'empêcher le bâtiment américain de s'approcher et de faire dévier donc le pétrolier de la course initiale. À quoi cela fait référence ? Cela fait référence essentiellement à la situation qui prévaut quant à la capacité pour les États-Unis de maintenir leur impérium, à savoir le contrôle des routes maritimes. Et ce contrôle, qui jusqu'à présent n'était pas remis en cause, est maintenant de plus en plus remis en cause par des puissances émergentes, que ce soit de manière régionale ou de puissance internationale. En tout cas, cette suprématie est remise en cause maintenant de plus en plus, sur fond de sanctions unilatérales, il faut le rappeler. Et dans ce contexte-là, nous assistons petit à petit à un changement de paradigme qui fait que les amiraux américains sont de plus en plus concernés par la perte de leur hégémonie sur ces routes maritimes. Cela concerne aussi bien le golfe Persique que les détroits clés que sont le détroit d'Hormuz ou les détroits au large des côtes yéménites qui mènent ensuite à la mer Rouge, canal de Suez, ensuite Méditerranée et vers là l'Atlantique. Rappelons pour nos téléspectateurs que l'an dernier déjà la République islamique d'Iran a projeté sa puissance maritime en exportant du crude vers le Venezuela. Même si un bâtiment a été intercepté par les Américains non loin des côtes vénézuéliennes, les convois ont été parfaitement acheminés. Et c'est en cela que cette séquence-là nous souligne, si je puis dire, que on peut être témoin bientôt d'accrochages de plus en plus fréquents, parce que c'est un changement de paradigme complet qui remet en cause encore une fois la capacité des Américains de pouvoir se projeter partout dans le monde, et que s'ils venaient à perdre le contrôle l'hégémonie sur une mer ou un océan ou un détroit clé, ça pourrait créer un précédent qui verrait leur puissance et leur statut hégémonique être complètement réduit à néant. Donc il faudra suivre la suite des événements, mais on peut penser que cette séquence, cette tendance lourde va se poursuivre, parce que les Américains sont de plus en plus acculés et leur autorité est remise en cause partout maintenant, que ce soit en mer de Chine, en Méditerranée, dans le golfe Persique, en mer Rouge. Et c'est un élément clé de ce à quoi on assiste, à savoir donc l'avènement du monde multipolaire.
Maître Deschamis, est-ce que vous estimez que voilà, l'ère de l'hégémonie américaine, ou pour mieux dire, le statut hégémonique américain, est bel et bien désormais révolu?
Moi, il me semble, cette opération menée par les forces iraniennes pour préserver leurs intérêts, parce que nous sommes devant un acte de souveraineté. Comme cela a été rappelé par le passé, un navire iranien devient un territoire iranien, et à ce moment-là, il appartient à l'Iran de le préserver et de faire en sorte que personne n'y touche. Et jusqu'à maintenant, effectivement, les Américains faisaient ce qu'ils voulaient en quelque sorte en haute mer, et plus particulièrement dans les zones internationales. Là, nous avons assisté à un changement de logiciel. Là, aujourd'hui, je dois vous dire que c'est un événement qui marquera, à mon sens, l'histoire moderne, mais également qui aura des conséquences sur la projection à venir. Non seulement par rapport au rapport de force Iran-États-Unis, mais par rapport à tout ce qui concerne, si j'ose dire, les routes maritimes, parce que les routes maritimes, contrairement à ce que j'imagine, est un enjeu majeur aujourd'hui par rapport notamment à l'acheminement de tout ce qui est produits énergétiques, que ce soit le pétrole brut, que ce soit le fuel ou tous les composants pétroliers, mais également le gaz, etc. Tout cela est concerné par ces opérations-là. Et à partir du moment où on considère que tel pays maîtrise ses voies maritimes et peut la dominer, c'est-à-dire qu'il peut décider de ceux ou des pays qui peuvent l'emprunter et à quelles conditions. et nous avons assisté à une démonstration exceptionnelle, tant par sa, je dirais, par la précision de l'exécution, mais également, au-delà de l'efficacité, par le professionnalisme, c'est-à-dire, nous avons assisté à une opération, si j'ose dire, digne d'un véritable film d'action. C'est-à-dire, on voit des forces spéciales atterrir sur un bateau en marche et, évidemment, dépêcher sur place des bâtiments militaires iraniens pour assurer à ce moment-là la protection et l'acheminement de ce grand bâtiment qui est un pétrolier qui en réalité il est inerte, c'est-à-dire on n'a pas par définition un armement dessus pour le protéger. On l'a rendu par la force des choses en bâtiment militaire et on l'a déplacé comme si c'était un bâtiment militaire appartenant à la République islamique d'Iran et protégé par la République islamique d'Iran, comme si la République protégeait son propre territoire qui se déplaçait au fur et à mesure en haute mer. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation me paraît également importante. Au-delà de ce changement de logiciel, il y a un changement de rapport dans le rapport des forces. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas dire « nous sommes seuls en haute mer à décider de ce qu'on veut ». Aujourd'hui, ils doivent composer de manière directe avec un certain nombre de pays. On parle de grands pays, c'est-à-dire la Chine, la Russie, mais aujourd'hui, l'Iran pèse autant que la Russie et autant que la Chine en haute mer. La preuve, c'est cette démonstration de force qui vient d'être exécutée avec brio par les forces spéciales et par les bâtiments maritimes qui sont, je dirais, devenus aujourd'hui, à mon sens, l'image de ce qu'est l'Iran sur le terrain militaire. Le troisième point, c'est le son pour l'ensemble de la région. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous aviez un certain nombre de pays de la région qui se croyaient protégés par les Américains et qui pouvaient tout faire en croyant que c'est les États-Unis qui les protégeaient. Aujourd'hui, ils ont compris que quand la République islamique d'Iran décide d'opposer, entre guillemets, son veto ou de sortir de ses zones maritimes et sortir de ces zones pour protéger leurs bâtiments, quel qu'il soit civil ou militaire, il en a la capacité, il pourra le faire. Il l'a fait, il l'a démontré. Aujourd'hui, vous avez donc la question qui se pose sur l'ensemble des pays du Golfe, plus particulièrement, qui se croyaient, au-dessus de tout, en croyant être protégés par les Américains. Aujourd'hui, qui va les protéger en cas de déplacement des forces iraniennes? Ce n'est pas une menace, bien entendu, mais c'est une démonstration qui démontre le rôle de chacun, qui est-ce qui pèse, et celui qui ne pèse pas, celui qui a besoin de protection, celui qui est capable de se protéger, celui qui peut défier les États-Unis et celui qui est obligé d'être leur esclave. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est un simple esclave, je ne peux pas le dire autrement, avec toutes les vociférations de tous les responsables et médias saoudiens, c'est un simple esclave qui crie juste pour vociférer, mais en réalité, cet esclave, maintenant, il est réduit à ce rôle-là et il a compris que la seule voix que les Américains sont capables d'entendre, c'est la voix de la force, c'est la voix de la puissance et c'est la voix de ceux qui sont capables de se projeter et pas de ceux qui se soumettent à leur vote. À tel point qu'ils sont traités d'imbéciles par le président Trump, ils sont traités de tous les noms. Aujourd'hui, on leur demande juste de signer l'échec et de partir avec, sans même garantir, la possibilité d'utiliser ce qui vient avec ces chèques, que ce soit des armements ou des technologies. Aujourd'hui, on leur assure la livraison, mais sans garantir ce que ça peut donner. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons devant une image claire. Il appartient donc au peuple de la région maintenant de se positionner entre ces deux axes, l'axe des esclaves et l'axe des gens qui sont dignes et qui ont élevé au rang, d'une idéologie nationale, la résistance dans tous les sens du terme et bien entendu la capacité de transformer cette résistance en acte de guerre, en bonne et due forme. Et aujourd'hui, nous avons effectivement la manifestation, sinon la démonstration qui a été faite sur la scène internationale, qui a été répercutée par l'ensemble des acteurs de la région. Je rajouterai encore un mot, la tentative des Américains de minimiser cet incident en disant c'est pas grave, ou en tout cas c'est rien, c'est un petit incident, en réalité c'est un petit échec. Non, aujourd'hui aujourd'hui la capacité de dissuasion des Américains dans la région est démontrée, et ça rappelle un précédent rapport qui a été donné, il me semble, par le patron de la 5e flotte des Américains, qui disait, parce qu'on lui a demandé de faire un rapport sur le rapport de force dans cette zone-là, il avait utilisé un terme extraordinaire, et aujourd'hui nous en avons la démonstration, il a dit « nous serons très vite submergés ». Submergé, il a deux sens. Le premier, c'est-à-dire les forces ne pourront plus répondre aux capacités militaires qui sont en face. Mais deuxièmement, submergé, ça veut dire qu'il est noyé. Là, aujourd'hui, c'est une démonstration qui aurait pu aboutir à des submersions en masse. Les Américains l'ont évité pour éviter, je dirais, une humiliation en bonne et due forme et sur la scène internationale, ce qui aurait pu dégénérer en un grand conflit. Ils l'ont évité, eux, et pas les Iraniens. Les Iraniens, au contraire, ils ont été offensifs, ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Et comme on dit, ils ont réalisé le job. Maintenant, les Américains sont obligés de composer avec ce job qui a été accompli par les forces iraniennes et que personne n'a pu contrarier.
Et Maître Arnaud de Vaulé, les Américains sont désormais obligés de composer avec l'Iran, selon Maître Chami. Maître Chami qui a en fait dit « voilà là, il s'agissait d'une démonstration de force de la part de l'Iran ». Cette démonstration de force, Maître de Vaulé, va-t-elle renforcer la position de l'Iran sur le plan politique également, d'autant plus que ces prochaines négociations pour la levée des sanctions injustement imposées au peuple iranien sont annoncées désormais, si vous voulez, pour le 29 novembre, pardon.
Oui, alors c'est intéressant que vous mentionniez effectivement la reprise des négociations fin novembre. Parce que le message qui est envoyé par les États-Unis, qui prétend pourtant vouloir mettre tout en œuvre pour réactiver l'accord dans toutes ses composantes, n'est pas le message que la République islamique d'Iran veut entendre. Et ce faisant, peut-être que les pontes à Washington ont pensé qu'ils pouvaient plus ou moins envoyer un message à la République islamique d'Iran à moitié voilé, selon lequel vous reprenez les négociations selon nos termes et vous oubliez vos positions de principe, ou voilà ce qui pourrait arriver. Or, la République islamique d'Iran n'a pas plié, le bluff n'a absolument pas marché, et bien au contraire, ce sont les Américains, comme l'a souligné Maître Chami, qui ont préféré à tout prix éviter une escalade et une humiliation qui aurait fait grand bruit. Je rappellerai aussi à nos téléspectateurs que ce n'est pas la première fois que la République islamique d'Iran fait face et tient front aux Américains. Rappelons les attaques fulgurantes du corps des gardiens de la Révolution sur les bases américaines en Irak et aussi récemment à Altana, où encore une fois les Américains ont fait mine d'évacuer d'un revers de main les blessés en laissant entendre que ces derniers ne souffraient que de commotions cérébrales, mais on apprenait au fil du temps que pas moins d'une centaine d'entre eux avaient effectivement été affectés par ces attaques, qui répondaient elles-mêmes à des provocations ou des assassinats ciblés par les Américains et leurs alliés. Donc cela révèle que la République islamique d'Iran ne laisse rien passer, que quels que soient les modes de provocation ou les thématiques qui peuvent être les causes de ces réactions de la part de la République islamique d'Iran, les principes non seulement sont prononcés de manière claire et précise, mais la République islamique d'Iran est parfaitement disposée à agir pour raffermir et renforcer ses prises de position, et cela quelle qu'elle soit.
Merci beaucoup. Mais Maître Chami, sur ce point, le président Raisi a dit que voilà, c'était hier, nous ne quitterons pas la table des négociations, mais nous nous opposerons aux exigences excessives qui nuiraient aux intérêts du peuple iranien. Là, je cite le président Raisi, encore, il a dit, nous ne reculerons en aucun cas sur les intérêts du peuple iranien. Nous poursuivrons les efforts pour neutraliser les effets des sanctions oppressives et nous agirons pour la levée des sanctions. Votre avis sur cette prise de position fermeté du côté de Téhéran, s'il vous plaît?
c'est un simple rappel de la position qui a été défendue par la République islamique depuis le début de cette affaire qu'on appelle l'affaire du nucléaire iranien. Et les négociateurs iraniens, avant l'accord sur le nucléaire de juillet 2015, évidemment, avaient une position claire. C'est d'abord et avant tout les intérêts du peuple iranien, la levée de toute sanction et bien entendu le maintien de l'activité nucléaire civile sans la moindre contrainte, parce qu'il s'agit encore une fois d'une décision souveraine qui a pour objectif de préserver les intérêts du peuple iranien et sa capacité énergétique pour ce qu'on appelle l'après-pétrole, ou en tout cas les énergies non fossiles. Les Américains, qui étaient conscients de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un nucléaire civil, n'ont cessé d'alléguer pendant des années des mensonges comme quoi il y avait un nucléaire militaire. Aujourd'hui, les rapports unanimes disent qu'il n'y a jamais eu de nucléaire, en tout cas dans le sens indiqué par les Américains, il n'y a jamais eu de nucléaire militaire. Les développements étaient animés par le spectacle qui a été donné par Netanyahou devant l'ONU. C'était la bombe ridicule avec une mèche. C'est vraiment d'une stupidité monstre pour un premier ministre d'un pays qui n'existe pas, en tout cas qui se veut une entité locale. Et finalement, aujourd'hui, il s'est ridiculisé et les responsables israéliens eux-mêmes ont réalisé de cette démonstration qui était totalement stupide. Aujourd'hui, l'accord existe. Il y a encore des parties qui disent « nous sommes dans l'accord ». Les Américains se sont retirés en disant « on le déchire ». Il n'y a qu'une seule solution, à mon sens. C'est le retour pur et simple des Américains dans l'accord, avec l'exécution par eux de toutes leurs obligations. Il y a, à mon sens, il n'y a aucune alternative aux Américains. C'est soit ou maintenir la tension. Continuer de vouloir renégocier l'accord qui a été négocié au fil des années. Il y a eu plusieurs négociateurs. D'abord M. Jalili, ensuite M. Zarif, jusqu'à ce qu'on arrive à un accord qui était plutôt satisfaisant pour tout le monde. Maintenant, on remet tout sur le tapis, puis ensuite on veut revenir à l'époque d'avant Kerry, c'est-à-dire en disant finalement toutes les questions dans la région doivent être traitées dedans et doivent être incluses dedans, c'est-à-dire le rôle de l'Iran sur le plan stratégique, le rôle de l'Iran sur le plan régional, quelle est son influence, la reconnaissance d'Israël, etc., etc. Ce sont des questions qui sont à part. Les Iraniens ont toujours rappelé la question de souveraineté ne sont pas à mélanger avec le reste. Vous voulez discuter avec nous de notre rôle, de nos alliances, de nos amis, de nos intérêts, on veut bien, mais la question du nucléaire iranien, c'est une question de souveraineté nationale. Celle-là ne sera jamais mélangée avec le reste. Les Américains doivent comprendre ça, revenir dans l'accord comme Kerry l'avait compris. Une autre phase devait être enclenchée derrière, c'est-à-dire des éventuelles discussions sur les autres questions qui concernent la région, à commencer par la question palestinienne jusqu'à la question de la stabilité de la région, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, jusqu'en Afghanistan. Toutes ces questions-là pouvaient être posées, mais après le retour et l'application par toutes les parties de leurs obligations. L'Iran a appliqué ses obligations, les Américains se sont abstenus. Ils n'ont fait qu'augmenter les sanctions sur l'Iran, y compris après la signature de l'accord, ce qui démontre leur crapulerie dans l'exécution, ou en tout cas dans le respect de leurs obligations. Et nous sommes aujourd'hui devant une nouvelle démonstration, parce que des nouvelles sanctions viennent de tomber, alors que par ailleurs, ils disent « on veut revenir ». Quelqu'un qui veut revenir n'augmente pas les sanctions. Et on ne peut pas continuer de jouer ce jeu, malsain, en disant « c'est pas moi, c'est le Congrès, et le Congrès, c'est pas moi, c'est le Président ». Ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre, mais en tout cas, l'accord doit être appliqué et exécuté par l'ensemble des partis, y compris les Américains, et c'est point à la ligne, on n'en parle plus.
Maître André Chamy, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Vollet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran est déterminé à obtenir la levée des sanctions, a souligné le président Raisi, soulignant que la République islamique d'Iran est déterminée à poursuivre une politique menant à la levée et à la neutralisation de toutes les sanctions anti-iraniennes. Le président Raisi a déclaré « Le peuple de la République islamique d'Iran salue les actions intelligentes et la brave autorité des gardiens des frontières du pays et Iran en hommage. » L'histoire de l'intimité américaine à l'égard du peuple iranien ne remonte pas à 40 ans. Cette hostilité a déjà plus de 70 ans. La vérité, c'est qu'au cours des de 30 premières années de leurs antécédents, les États-Unis ont réussi à piller les richesses et les intérêts du peuple iranien par des coups d'État et avec l'aide des dictateurs fantoches à la solde, mais au cours des 43 dernières années qui ont suivi la victoire de la révolution islamique, la nation iranienne a su gagner la bataille contre les animosités sans fin des États-Unis, a souligné le président Raisi. Plus loin dans ses propos, il a réaffirmé que l'Iran souhaitait voir des résultats tangibles lors des prochaines négociations avec les 4+1 sur la levée des sanctions imposées au pays. Ebrahim Raisi a précisé que l'Iran n'abandonnera pas la table des négociations, mais refusera de se plier à des velléités maximalistes avancées par la partie d'en face qui vont à l'encontre des intérêts nationaux iranien. Le président Raisi, qualifiant d'injuste les sanctions américaines contre la nation iranienne, a exhorté Washington à les lever. Les États-Unis n'ont que deux choix. Soit ils retirent de la région, soit ils subissent les gifles, a souligné le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. À l'occasion de la commémoration de la journée de la lutte contre l'arrogance mondiale, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a violemment critiqué les États-Unis, les taxant de l'usine de fabrication des dictatures dans le monde. Les Américains ont pris l'habitude de subir les défaites l'une après l'autre de la part du peuple iranien, mais ils n'en ont pas encore tiré les leçons. Or, l'hégémonie des États-Unis est en train de s'estomper et de se dilapider, a-t-il souligné. Les États-Unis sont devant deux choix dans la région, soit la défaite et le retrait, soit de rester et d'essuyer des gifles, a-t-il averti. Il a aussi dénombré 200 interventions américaines dans les affaires internes des autres pays sur tous les plans, dont les coups d'État militaires, les embargos économiques, les guerres militaires et les zizanies internes. Les États-Unis ont établi 750 bases militaires dans le monde, avec pour chacune d'entre elles sa sphère d'influence politique pour asseoir leur hégémonie politique totale sur le monde. À commencer par Ferdinand Marcos aux Philippines, en passant par Jafral Nomeri au Soudan, et Pinochet au Chili, les pharaons d'Égypte, le Shah d'Iran et tous les autres dirigeants dictateurs de par le monde. Tous les dictateurs dans le monde sont nés depuis la matrice du régime politique américain, a-t-il souligné encore. « Le représentant de la République islamique d'Iran intervenant à la réunion du comité politique de la décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies a répondu avec force aux accusations du régime sioniste et aux revendications des Émirats arabes unis et du Maroc concernant les trois îles iraniennes avant de réagir sur la distorsion du nom du golfe Persique, un nom qui remonte à l'histoire des eaux méridionales de l'Iran. Le représentant iranien intervenant à la réunion du comité politique et de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies en réponse à la revendication territoriale des Émirats arabes unis au soutien du représentant marocain aux allégations émiraties sur les trois îles méridionales iraniennes, petites et grandes de Tombe ainsi qu'Abu Moussa, a souligné la position ferme et de principe de l'Iran qui ne reconnaît pas l'existence d'un tel différend entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Le représentant de la République islamique d'Iran a déclaré lors de cette réunion « Les trois îles iraniennes mentionnées sont une partie intégrante des territoires iraniens. Il faut donc rejeter toute intervention et toute revendication contraire à cette réalité. » Dénonçant des tentatives visant à falsifier le nom historique du golfe Persique, le diplomate iranien a déclaré « Ce nom se fonde sur des normes géographiques reconnues par la communauté internationale, y compris les Nations unies, qui ne seront pas modifiées par des velléités politiques. » L'ambassadeur d'Iran au comité politique et de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies a également répondu aux accusations proférées par le représentant du régime sioniste et lui a rappelé les actions illégales, les politiques discriminatoires et les crimes de guerre et de l'occupation qui sont également documentés par l'ONU. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Abou Habib, a déclaré, c'était le mardi 2 novembre, que l'Arabie saoudite impose des conditions impossibles en demandant au gouvernement de limiter le rôle du Hezbollah. Dans une interview avec Reuters, Abou Habib a indiqué que les Saoudiens n'ont mené aucun contact avec le gouvernement nouvellement formé avant même le récent différend diplomatique. Et d'ajouter, le Liban souhaite avoir d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite à travers le dialogue et non pas les dictats, car le Liban et l'Arabie saoudite sont tous deux des pays indépendants. Le chef de la diplomatie iranienne a jugé hors question des excuses du gouvernement à l'Arabie saoudite, car il ne s'était pas trompé et de souligner, le Hezbollah ne contrôle pas le pays, il fait partie des composantes politiques principales qui a une extension militaire qu'il n'utilise pas contre le Liban. Nous sommes confrontés à un gros problème. Si les Saoudiens veulent la tête du Hezbollah, nous ne pouvons pas la leur donner, a conclu le ministre libanais des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie à Damas, Alexandre Efimov, a affirmé que l'aide de Syrie et la Russie coordonnent leurs positions dans les différentes questions et coopèrent étroitement pour parachever la mission de l'éradication des terroristes. Dans une interview qu'il a accordée à l'agence de presse TASS, Efimov a fait noter le dialogue qui s'oppose sur la confiance mutuelle au plus haut niveau entre les deux présidents, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine, acquiert une importance particulière, chose démontrée lors du sommet qu'ils avaient tenu au Kremlin en septembre dernier. Efimov a souligné qu'il est prématuré de parler de l'éradication définitive du terrorisme en Syrie, faisant savoir que la présence des terroristes ne se limite pas uniquement à la région d'Idlib et ses environs, mais le réseau terroriste Daesh menace toujours certaines zones dans le désert en dépit de la destruction de sa capacité de guerre grâce aux efforts faits par les deux armées syriennes et russes. L'ambassadeur de Russie a fait noter que les terroristes d'Idlib et leurs alliés avaient bloqué des initiatives conjointes syro-russes pour ouvrir des couloirs humanitaires pour ceux qui souhaitent quitter les zones qui sont sous le contrôle des terroristes. Efimov a précisé que la présence des forces étrangères dans la région syrienne Al Jazeera, y compris le règlement, entrave le retour de l'État syrien et prive le peuple syrien d'atteindre ses ressources naturelles nécessaires, notamment le pétrole. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la Radio Francophone Iranienne.
Thank you.